Donc je vais maintenant passer à la présentation de notre conférencier de ce soir, M. Chu Chao-chuan. M. Chu Chao-chuan est né en 1954 à Shanghai. Il est linguiste et critique social. Il est professeur titulaire à l'université de Fudan à Shanghai. Pour ce qui est de son parcours, en 1984, il a obtenu un DEA en linguistique française à l'université d'Aix-en-Provence, puis en 1987, un doctorat ES Lettres. En 1992, il est chercheur attaché au Centre de recherche linguistique sur l'Asie orientale au CNRS. En l'an 2000, il est professeur associé au département Chine de l'INALCO. Il a enseigné la culture chinoise contemporaine. Et depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, il est professeur au département des langues et des littératures étrangères à l'université de Fudan. Il est spécialiste des études culturelles. Il a réalisé notamment une série d'études sur les figures clés dont les pensées et les prises de position ont profondément marqué le paysage intellectuel et culturel de la Chine contemporaine. Pour ce qui est de la bibliographie, M. Chu Chao-chuan est l'auteur d'ouvrages et d'une vingtaine d'articles dans des revues spécialisées en chinois, en français et en anglais. Il a également publié « Guide de la correspondance et du message écrit en chinois » en 1987 aux presses d'Aix-en-Provence. Et il est le traducteur des écrits de Jacques Lacan en Chine. Monsieur Chu Chao-chuan, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
Merci. Bonsoir. Je vais essayer de vous présenter les aspects de la vie culturelle et intellectuelle en Chine. Ce n'est pas une tâche très facile, parce que, aussi bien pour le monde extérieur que pour les Chinois eux-mêmes, une connaissance de la culture chinoise à l'heure actuelle n'est pas quelque chose d'évident. Depuis bientôt 150 ans, cette culture se trouve dans une situation de métamorphose accélérée. Son identité a été donc remise en cause sans arrêt. En plus, les enjeux considérables de la question culturelle pour la Chine d'aujourd'hui, plutôt que de l'éclaircir, ne manquent pas de brouiller l'image de cette culture aux contours indéterminés. Il y a donc lieu de se méfier des formules toutes faites et des stéréotypes bon marché. L'une des raisons pour lesquelles le mot culture a une importance capitale dans les discours publics en Chine actuels se laisse percevoir dans le fait qu'à ce début de nouveau millénaire, la culture reste à peu près le dernier repère par lequel les Chinois peuvent continuer à s'identifier à leur pays. Il y a 20 ans, assez lointain, il est vrai, où les Chinois se prenaient comme habitants de toutes ces terres civilisées, ça veut dire « tianxia ». Et durant ces longs siècles-là, s'il était question de se forger une identité culturelle, c'était plutôt les autres qui devraient se définir par rapport à nous, les Chinois. Être Chinois, c'était au centre du monde. Dans un autre passé qui se tarde à s'effacer complètement, une idéologie dite révolutionnaire submergeait complètement tous les aspects de la vie chinoise, de sorte que l'identité chinoise se confondait avec une appartenance politique. Le drapeau rouge, le costume de Mao, le petit livre rouge constituaient des signes distinctifs de tout un peuple. En plus, l'isolement quasi absolu que le pays s'est rudement imposé pendant cette douloureuse période faisait aussi croire aux Chinois à une différence radicale entre nous et eux les autres. Le tournant historique des années 80 du siècle dernier, par une forte volonté d'intégrer la Chine dans le monde extérieur, a fait s'estomper ces distinctions d'ordre politique et idéologique, au fur et à mesure que l'idéologie officielle perd sa prise sur la vie et la pensée des Chinois. Nous deviendrons comme les autres, pour tout ce que peut impliquer ce processus inéluctable. C'est précisément dans ce contexte-là que la question de la culture chinoise se pose à tous les esprits et d'une manière impérative. Comment redéfinir la culture chinoise dans la conscience nationale pour que le mot chinois ne soit pas une désignation géographique? Le souci de construire l'identité nationale sur une identité culturelle se montre clairement dans le concept « la Chine culturelle » lancé par certains intellectuels dans ces années charnières. Être chinois, c'est d'être un pratiquant de la culture chinoise. Mais si en Chine antique, les lettrés pouvaient toujours prétendre impunément que ce que nous possédions, c'était la culture tout court. Il est aujourd'hui urgent d'établir une caractérisation de cette culture. Or, c'est là que les questions et les problèmes concernant la culture chinoise commencent à se multiplier. Car à l'heure actuelle, il ne paraît pas éminemment facile de cerner la notion culturelle, culture chinoise. C'est une question encore plus épineuse d'attribuer des traits précis à une définition ontologique de la culture chinoise. Pour un observateur qui a acquis ses connaissances de la culture chinoise à travers les traités savants, les pratiques culturelles en Chine contemporaine pourrait conduire à une question troublante. Que reste-t-il de cette culture aujourd'hui? Outre les aspects matériels de la vie courante, tels que les habillements, les transports, les outils de communication et les moyens de transport, etc., qui sont immanquablement uniformisés à l'occidental, tout un pan de ce qui est considéré comme relevant de son essence la plus fondamentale semble n'avoir une existence que dans les récits historiques. Les rites, par exemple, qui réglaient si minutieusement et systématiquement la vie sociale, même la vie privée des Chinois dès l'âge formatif de la culture chinoise, il y a à peu près 3000 ans, ont été largement abandonnés et oubliés. D'abord dans un esprit iconoclaste, ensuite sous des slogans égalitaristes, laissant ainsi un vide comportemental dans les échanges interpersonnels aujourd'hui. Or, ce manque de régulation rituelle devrait être lourd de conséquences parce que c'était en se référant à une codification rigoureuse des rites que Confucius a élaboré tout un système de pensée qui demeure incontestablement la base de la culture chinoise. Sur le plan de la pensée, justement, l'unité culturelle chinoise qui restait incroyablement solide face à toutes sortes d'adversités s'est faite depuis 2 millénaires autour du canon confucien appelés communément les 4 grands livres et les 5 classiques. Ces textes d'un caractère quasi sacré, à force d'être étudiés et répétés sans relâche, constituent un environnement intellectuel dans lequel la culture chinoise a pu s'épanouir. Mais depuis un siècle, surtout après 1949, ces textes sont disparus du programme éducatif pour les écoliers chinois et ne trouvent plus d'écho dans les discours publics. Au regard de l'effacement de ces éléments essentiels de la culture chinoise, n'est-il pas légitime de poser la question sur sa survie? Cette culture, vieille de 4000 ans d'histoire et si brillante, si originale autrefois, est-elle en train de devenir une version orientale de la culture occidentale? Que les Chinois, ou au moins une certaine partie d'entre eux, s'en inquiètent est un fait indéniable et compréhensible. Pourtant, on ne constate pas, même chez les traditionalistes, des réactions conservatrices, outre mesure préconisant un retour vers un passé pur de la culture chinoise. Les théoriciens de la culture, quelles que soient leurs convictions, s'accordent sur la nécessité d'évolution pour notre vieille culture. Qui plus est, un sentiment est, semble-t-il, assez généralement partagé que la culture chinoise reste encore vivante en Chine, ne serait-ce que pour la place centrale que la famille continue à occuper dans la vie sociale et personnelle, pour une sensibilité particulière dans les créations artistiques, pour certains regards sur les rapports homme-nature et aussi pour une attitude généreuse envers la vie culturelle. De fait, si par le biais de son sens originel, nous entendons culture comme une activité visant à faire pousser quelque chose de vital, les Chinois d'aujourd'hui continuent à s'efforcer de cultiver leur champ de la même manière que par le passé. Cette manière, cette attitude envers la vie culturelle, n'est-elle pas au principe de la persévérance extraordinaire de la culture chinoise dans ce monde pourtant si étrange à la conception de leur premier concepteur, premier penseur? Dans cette optique, pourrons-nous croire que c'est sans doute à travers la façon dont on aborde les affaires culturelles que nous pourrions percer le secret de la culture chinoise? Au premier abord, les Chinois ne semblent pas très systématiques dans leurs pratiques culturelles. Quiconque jette un coup d'œil sur la scène culturelle en Chine d'aujourd'hui n'échappe pas à l'impression d'une hétérogénéité confuse. Par exemple, on constate que très haut sur la liste des best-sellers littéraires de l'année dernière, il y a des titres des romans européens de grand succès, tels que Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc. Mais de l'autre côté, aussi des titres proprement chinois, comme les romans, les nouveaux romans de Kung Fu, un genre populaire dont l'origine remonte au moins au 8e siècle sous la dynastie Tang. Toujours pendant l'année dernière, les enfants chinois étaient fascinés par le récit de l'aventure africaine de la petite française Tipi, tout en gardant leur passion séculaire pour le roi singe, un héros de roman chinois vieux de 5 siècles. Dans les salles de concert, les organisateurs des soirées musicales font parfois présenter sur la même scène et sans transition un concerto de Mozart et aussi un morceau choisi du très riche répertoire de l'opéra de Pékin. Au programme de la philosophie à l'université, les étudiants apprennent avec la même vénération d'un côté les théories de Marx ou bien de Heidegger et de l'autre côté les pensées de Confucius, de Zhuangzi, de Laozi. Des contradictions inhérentes, s'il y en a, de ces différents produits intellectuels de cultures bien distinctes ne semblent pas perturber la réception enthousiaste du public chinois. Cette facilité à absorber des éléments hétérogènes révèle un trait fondamental de l'esprit culturel chinois. Ce trait, nous pouvons le trouver bien exprimé par le Confucius dans les premières pages de ses entretiens. L'homme de bien n'est pas un ustensile destiné à seul usage. Il dit « junzi buqi ». Et il dit encore « l'homme de bien est impartial, vise à l'universel. L'homme de peu, ignorant l'universel, s'enferme dans le sectaire. » Pour un confucien, ça c'est la deuxième citation, « junzi zhou er bu bi, xiao ren bi er bu zhou ». Pour un confucien, l'idéal de sa culture, c'est avant toutes les autres choses de devenir un homme de bien. Or, un homme de bien, dans la conception confucienne, n'est pas défini comme quelqu'un qui garde une certaine croyance basée sur quelque dogme révélé. Il est avant tout quelqu'un en quête perpétuelle d'un état de civilité plus élevé. Une quête guidée par cette aspiration à l'universel et ce rejet du sectaire, sectaire dont parle Confucius. Par ce souci de se défendre du sectaire, les penseurs chinois sont conduits à une sage humilité envers la connaissance du monde, ce qui se voit très clairement dans le refus à édifier un système de savoir encyclopédique régi par une logique interne, ou bien un système d'explication cosmologique de l'univers. En effet, les savants de la Chine antique se gardaient toujours de poursuivre ce genre d'entreprise ambitieuse englobant tous les savoirs universels. Maître à penser ou gourou d'une école, ils sont prêts à reconnaître des lacunes dans leur connaissance. Confucius a même élevé le non-savoir en une doctrine quand il dit « savoir qu'on sait quand on sait » et « savoir qu'on ne sait pas quand on ne sait pas ». C'est là la vraie connaissance. Voilà. « 知之谓知之，不知谓不知，是知也。» La troisième citation de Confucius. Il ne s'agit pas, dans cette phrase très célèbre de Confucius, d'un simple principe éthique de la modestie. Le maître élabore ici, en fait, un principe de la culture. Non seulement on ne peut pas prétendre à tout savoir, mais le non-savoir fait nécessairement partie de notre connaissance du monde. Cette vraie connaissance, comme dit Confucius, nous rend conscients de la nature provisoire et temporaire de notre savoir, en nous mettant constamment en garde contre l'orgueil de savoir sans faille. De plus, la connaissance de ce non-savoir comme partie intégrale de notre connaissance du monde transforme le savoir en quelque chose en devenir perpétuel dans un rapport dialectique avec le non-savoir, au fond, un rapport entre le vide et le plein, comme diraient les taoïstes. Si les écrits des auteurs classiques chinois nous paraissent toujours comme des morceaux fragmentaires, c'est justement parce que notre vraie connaissance est par nature fragmentée, ce qui laisse une vaste possibilité pour l'évolution dans le futur. Bien évidemment, un esprit qui reconnaît la légitimité des savoirs inconnus est doté d'un potentiel inestimable, mais en ce faisant, il s'attribue en même temps la redoutable tâche d'accueillir des éléments étrangers au sein de sa pensée. Comment est-il toujours possible de les intégrer sans des heurts graves qui mettront en question le fondement de sa propre existence. En fait, la potentialité d'assimiler de nouveaux savoirs qu'on peut bien constater dans l'histoire culturelle chinoise est une conséquence directe d'une spécificité de la culture chinoise, si bien résumée par M. Vandermensch, qui définit le ritualisme, ce pivot de l'univers culturel chinois, comme un ensemble des formes et même des formes de formes. En prolongeant un petit peu cette analyse, nous serons tentés de dire que toute la culture chinoise est en fait une culture basée sur un système de formes et non pas sur celui d'une substance. Ces formes se présentent d'un côté dans des concepts hautement abstraits comme qi, comme yin, yang, de l'autre par des consignes extrêmement concrètes comme la manière de parler et la manière de se tenir dans une cérémonie familiale. De l'un et de l'autre, il n'y a pas d'affirmation des thèses sur des faits empiriques qui seraient sujettes à des vérifications de causalité. En tant que système explicatif du monde temporel, ce genre de thèse exige une cohérence interne comme une condition sine qua non de sa validité. Un fait contradictoire découvert, le système entier risque de s'écrouler sous le poids d'une logique implacable. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on a assisté le long de l'histoire occidentale à de nombreux changements radicaux de paradigme de pensée. La pensée chinoise, par contre, s'avère beaucoup moins vulnérable aux contradictions internes, parce que sa véridicité dépend d'un tout autre type de réalité, une réalité relationnelle, qui attribue à tout savoir une place fonctionnelle dans la vie sociale et interpersonnelle. Ce que les grands penseurs chinois de l'âge classique nous ont légué comme le fondement de la culture chinoise, c'est au fond un cadre civil s'appuyant sur quelques grands principes éthiques, et à l'intérieur de ce cadre, il y a la possibilité d'une vie culturelle riche et variée. L'accueil que la Chine offre au bouddhisme en est un exemple éclairant. De sa vision du monde jusqu'à son expression linguistique, le bouddhisme est tout à fait à l'antipode de la pensée chinoise. Pourtant, cette étrangeté radicale n'a pas suscité de rejet instinctif chez les lettrés chinois. Pourtant, depuis son entrée en Chine, un effort considérable à l'échelon national pendant plusieurs siècles a été dévoué à l'étude et à l'assimilation de cette pensée indienne. De sorte qu'aujourd'hui, dans la mentalité chinoise, le bouddhisme n'est plus senti comme quelque chose d'étranger. Il fait partie intégrale du paysage intellectuel et culturel de la Chine, tout comme la pensée des encyclopédistes est inséparable de la pensée française. Le rappel de ce fait d'histoire culturelle en Chine peut nous faire bien apprécier la volonté et la capacité des Chinois à recommencer un apprentissage de base, même au prix d'une refonte partielle de leur vocabulaire et de leur concept du monde. L'image d'une Chine engendrée par l'orgueil impérial et renforcée par la propagande nationaliste comme éternel vainqueur culturel qui a su convertir à leur culture les conquérants étrangers les plus féroces et sauvages. Cette image cache très commodément les empreintes culturelles que les Chinois ont fait constamment et même massivement le long de leur histoire. Au fond, la culture chinoise est une culture ouverte, jamais allergique aux idées nouvelles. Ce qui se voit bien dans le fait qu'il n'y a jamais eu en Chine des mouvements intégristes pour la culture chinoise. Ainsi, les lettrés chinois ne trouvent-ils rien d'insupportable dans la coexistence des trois principaux courants de pensée en Chine? Ces trois courants ont été chacun attribués un domaine propre. Le confucianisme pour gouverner le pays, le taoïsme pour préserver le corps et enfin le bouddhisme pour sauver l'âme. Si la culture pourrait être envisagée comme une pure forme qui est donc capable d'accueillir des emprunts étrangers, c'est que le concept même de culture en chinois n'indique pas de distinction substantielle. En effet, le concept de culture en chinois et celui en langue européenne ne correspondent pas exactement. Parmi les idées introduites en Chine de l'Occident au début du XXe siècle et celles désignées par le mot culture en langue européenne, on traduit habituellement ce mot culture par un terme chinois ancien, wenhua. Wenhua. Mais l'équivalence entre ces deux termes, wenhua et culture, n'est qu'apparente. Le terme chinois wenhua est en fait composé de deux mots qui indiquent respectivement ordre pacifique, c'est wenzi, et instruction civile, jiaohua, wenzi jiaohua, donc on fait wenhua. Dans son usage traditionnel, il désigne ce mot wenhua, qui désigne d'une manière assez vague, il est vrai, mais très générale, d'un état d'esprit pacifique instruit. Ce concept large de connotation a telle enseigne que les savants chinois de la Chine ancienne pensaient rester toujours dans le même domaine de wenhua quand ils passaient de l'étude de la parole de Confucius à celle des sutras indiens. Pour eux, c'est toujours de la même wenhua. Par contre, le concept culture en Occident, avec tout ce qu'il a acquis dans ses usages depuis le XVIIIe siècle, est un concept de substance et sert avant tout de marquer les différences sociales ethniques. La substitution du concept de culture à celui de wenhua par le biais de la traduction a abouti à une prise de conscience aiguë de l'identité culturelle en Chine moderne, ce qui mène à des conséquences considérables. À l'époque moderne, précisément, la rencontre entre la culture chinoise et la culture occidentale s'est passée parfois dans une atmosphère conflictuelle. Mais ce serait hasardeux d'en conclure que l'esprit chinois avait pris un tournant xénophobe, parce que l'hostilité qui se manifestait d'un temps à l'autre à l'encontre de la culture occidentale depuis un siècle et demi était due à plusieurs circonstances historiques accidentelles. Au premier chef, une dynastie paranoïaque fondée par une ethnie minoritaire toujours sur la défensive. Et ensuite, des guerres malheureuses en succession, et dernièrement, la règne néfaste d'une idéologie obscurantiste qui était farouchement hostile à la culture, quelle que soit son origine. Rien de tout cela ne provient d'une incompatibilité fatale entre la culture chinoise et la culture occidentale. En effet, pendant la première moitié du XXe siècle, période clé pour la formation de la culture contemporaine chinoise, les intellectuels les plus résolument pro-occidentaux en matière de la culture tels Lu Xun et Hu Shi sont en même temps des grands lettrés dont la connaissance et l'amour pour la culture traditionnelle n'ont rien à envier à personne. De même, les éminents traditionnalistes dédiés à la cause de la culture chinoise étaient souvent des intellectuels formés dans les écoles occidentales. L'antagonisme entre la culture chinoise et la culture occidentale est en fait né d'une conjoncture historique particulière. Par sa force dominante dans le monde, par ses réussites techniques, la culture occidentale constitue un horizon incontournable pour l'avenir de la culture chinoise. Et l'histoire mouvementée de ces 150 dernières années en Chine a créé un environnement tout nouveau pour la réception de cette nouvelle culture venue ailleurs. Entre autres, le concept occidental de culture nationale a considérablement accru la conscience identitaire relative à la culture chinoise. La question inimaginable il y a deux siècles se pose depuis à tous les esprits soucieux. La culture, mais laquelle ? À deux reprises, cette question a suscité, au cours du siècle passé, de grands débats de l'ampleur nationale, le premier datant du fameux mouvement du 4 mai de la première moitié du siècle, le deuxième durant les années 80. Ces deux débats ont attiré des participants de toutes les qualités intellectuelles, philosophes, historiens, écrivains, scientifiques, etc. Et les deux débats ont tous lieu au moment où la Chine s'est libérée d'un carcan politique et affronte un choix crucial pour son avenir. À peine le régime impérial s'est-il écroulé au début du siècle dernier, en Chine, une jeune génération des intellectuels se met en révolte contre le système culturel mis en place depuis plus de millénaires. Voulant refaire la culture chinoise de fond en comble, ces radicaux, Hu Shi, Chen Duxiu, Lu Xun, en tête, lance un mouvement iconoclaste contre toutes les pratiques anciennes, à commencer par la langue chinoise. À l'encontre de cette ferveur révolutionnaire, des voix se lèvent pour défendre la culture traditionnelle chinoise. Ce contre-courant traditionnaliste est connu sous le nom de l'école de Xuehen. l'école de Zhuhe, au titre d'une revue où ces gardiens de tradition ont l'habitude de s'exprimer. Donc Zhuhe, en fait, c'est le titre d'une revue. Ce courant de pensée est animé par un groupe de jeunes professeurs qui, paradoxalement, ont tous passé de longues années dans des grandes facultés de lettres en Europe et aux États-Unis. Au centre du débat entre ces traditionalistes et les tenants du mouvement radical est le sort qu'on devrait faire à la culture chinoise. Faudrait-il la rejeter complètement ou tout au moins la réformer foncièrement pour que la Chine ait une chance de survivre dans le monde moderne? Malgré leur dévotion presque religieuse pour leur cause, les traditionalistes semblent ne livrer qu'un combat d'arrière-garde, sans aucun espoir de se faire entendre. Car depuis ce débat jusqu'à vers la fin du XXe siècle, la Chine s'est foncée dans une voie de radicalisation révolutionnaire, emportée par une spirale ravageuse vers un futur introuvable. Quand la révolution communiste a triomphé sur le continent chinois, les membres de cette école de Zhuhe étaient finalement réduits au silence. Et leur position sur la culture chinoise ne trouve de traces que dans de brèves notes des livres d'histoire, comme exemple des réactionnaires d'une époque bien enterrée. Les principaux acteurs de cette école, tous les intellectuels de premier rang, étaient largement oubliés. 60 ans plus tard, après la dévastation ruineuse de la bien mal nommée révolution culturelle, la Chine, confrontée à une immense tâche de reconstruction culturelle, a connu un autre débat sur le thème de la culture. C'était dans les années 80. À l'éternel questionnement autour du projet pour une culture de demain, il vient s'ajouter une nouvelle problématique liée à la récente histoire douloureuse. Pourquoi un pays si riche en traditions culturelles a-t-il pu commettre ces horreurs de vandalisme? Comment se fait-il que tous ces gens bien instruits n'aient pas pu monter la moindre résistance à la folie destructive qui régnait sur la Chine pendant si longtemps? Au-delà des explications circonstancielles, les intellectuels chinois cherchent alors à déterminer des raisons plus fondamentales pour ce drame national. Ils ont, ou au moins une partie d'entre eux, le sentiment général que toute l'entreprise de la modernisation de la Chine, et en particulier la modernisation de la culture chinoise, est mal partie dès le début. C'est dans ce contexte-là que l'école de Zhuhe était exhumée du fond de la mémoire et allait prendre une belle revanche en assumant une importance prépondérante dans le discours intellectuel contemporain. Le retour des traditionalistes est surtout incarné par le personnage hors de commun de l'historien Chen Yinke. Maintenant, en Chine, c'est un grand nom. Vraiment, c'est un grand nom. Issu d'une famille illustre des grands mandarins, et formé à l'université de Berlin et à l'université de Paris, Chen Yinke fut très jeune reconnu comme l'un des meilleurs historiens de la Chine, et ses écrits sur l'histoire de la Chine constituent sans aucun doute un héritage intellectuel de très grande valeur. Mais la raison pour laquelle il est aujourd'hui un héros culturel est autre qu'académique. Toute sa vie, avant et après 1949, l'année de la prise du pouvoir par les communistes en Chine, il a fait preuve d'un esprit indépendant et défiant dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque les autres, qui n'étaient pas partis avec les Kuomintang en déroute, s'empressaient à trouver une place dans le nouveau régime en Chine, lui, qui a été offert un poste important dans la nouvelle Académie des sciences, l'a refusé obstinément. Et il préférait de rester dans la ville éloignée de Guangzhou. En dépit de l'adhésion massive à la nouvelle idéologie triomphante, il a le courage de demander à la plus haute autorité de la Chine la permission de ne pas croire au marxisme. Quand les autres intellectuels se précipitaient à adapter sans cesse leur discours académique au gré des besoins politiques du moment, lui, il n'a pas écrit jusqu'à sa mort un mot qui ne soit pas de sa propre conviction. À la fin de la révolution culturelle, au moment du bilan de ces quelques décennies d'anéantissement systématique, la mémoire de ce vieux professeur d'histoire, frêle et aveugle, mort tristement dans un isolement total, a surgi de l'oubli général. on voit que sa personnalité tranche d'une manière éclatante avec les autres grandes figures intellectuelles chinoises dont les comportements pendant et avant la révolution culturelle laissent beaucoup à regretter. Par son amour de liberté, par son courage moral et par son indépendance d'esprit, Cheng Yingge fait aujourd'hui l'objet d'une admiration ou même d'une adoration générale bien au-delà du siècle des historiens. Et plus significativement, l'autorité morale dont jouit Cheng Yingge maintenant jette une nouvelle lumière sur le vieux débat de la culture au début du siècle dernier. Grand ami de l'école de Xuehen, Cheng Yingge ne fait jamais de mystère sur la source de sa conviction morale. Il est un traditionnaliste pur qui déclare haut et fort son adhésion aux valeurs de la culture traditionnelle. Et alors, on ne saurait manquer à remarquer le paradoxe que pour les modernistes fiers de leur vue progressiste, une Chine maoïste est un monde sans repère moral. Tandis que pour un vieux confucianiste qui se dit un homme du 19e siècle, et lui, il voit clairement où mène une conduite intègre. Une question est donc inévitable. Comment cette culture, condamnée à être enterrée, jugée complètement dépassée, sans pertinence dans le monde moderne, délaissée aussi bien par les communistes que par leurs adversaires politiques de la Chine moderne, a-t-elle fini par être la seule à pouvoir fournir des ressources spirituelles, intellectuelles pour une prise de position qui est seule bien à la hauteur de la dignité humaine ? À travers l'itinéraire personnel de Cheng Yingge, la vieille culture chinoise a bien montré la profondeur de son potentiel humanitaire. Il n'est donc pas étonnant qu'autour de la personnalité de Cheng Yingge, et plus généralement dans le contexte social de réflexion, est né un renouveau de l'intérêt pour la culture traditionnelle. On voit bien qu'à travers des souvenirs personnels publiés ces dernières années-là, transparaissent ainsi une réévaluation de l'apport de l'école de Xuehen et aussi une réinterprétation de l'héritage du mouvement du 4 mai, ce qui consiste le trait le plus marquant des discussions sur le problème de la culture dans l'époque post-révolutionnaire. Le passé est revenu récupérer sa place. Si dans le premier débat sur la culture au début du XXe siècle, il s'agissait de dessiner le profil d'une culture de demain. Dans le deuxième débat culturel ayant lieu après la révolution culturelle, vers la fin du même siècle, le regard des participants de ce débat se tourne plutôt vers le passé, faisant analyse et évaluation de tous les courants de pensée qui ont façonné d'une manière ou d'une autre le destin de la Chine au cours de ce très long siècle. Ce penchant de fin de siècle se prolonge jusqu'à ses premières années du XXIe siècle dans une ambiance nostalgique qui dépasse les discussions académiques et intellectuelles pour pénétrer dans de divers domaines culturels. Ce nouvel air du temps, sans doute symptomatique d'un changement de mentalité, se manifeste le plus clairement dans les produits culturels destinés à la consommation des masses. Souvenir du vieux temps, c'est le thème qui procurera immanquablement de l'or à tous ces producteurs à la mode et tous ces écrivains à succès. Des mémoires personnelles et des biographies des grands hommes au feuilleton télévisé en passant par les romans populaires, on assiste actuellement à la réhabilitation d'un passé bien enfoui depuis longtemps. Un Pékin impérial, un Shanghai colonial, un paysage éternel, et un art de vivre dont on n'a plus la maîtrise. Tout ce décor récupéré de la mémoire collective semble exercer un charme irrésistible pour le public. Le Shanghai des années 30, par exemple, est dépeint comme un haut lieu d'avant-gardisme, d'abord par les auteurs sino-américains d'origine de Shanghai. Leurs récits de jeunesse, un peu sentimentaux, sont ensuite relayés par les écrits des auteurs shanghaïens nourris de souvenirs de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ce vieux Shanghai de jazz, du cinéma et des artistes bohémiens, qui est une découverte fascinante pour la jeune génération, frappe par sa modernité précoce. Et aujourd'hui, justement, on cherche à renouer la lignée de cette modernité. avec émerveillement et fierté les jeunes qui sont nés ou ont grandi dans les années creuses de la révolution culturelle s'étonnent d'apprendre qu'il y a 60 ou 70 ans, leur ville était déjà au confluent de l'Orient et de l'Occident et qu'ils possédaient, sans le savoir, toute une tradition culturelle issue de la première rencontre entre l'Europe et la Chine. Les écrivains des années 30, comme Zhang Ailin, dont on ne soupçonnait pas l'existence, deviennent ces dernières années-là les auteurs les plus lus et les plus étudiés. La mode, l'urbanisme, l'architecture, les arts décoratifs sont aussi prêts à saisir le goût pour élaborer une nouvelle esthétique rétro. Et dans certains quartiers chics à l'ouest de Shanghai, il est déjà apparu toute une mise en scène touristique rappelant ces années fébriles. À plus d'un titre, cette modernité déterrée des années 30 fait un effet de miroir étrange à une autre modernité en construction actuellement dans la même ville. Les années 30 ne sont pas la seule période du passé sur laquelle les Chinois nostalgiques se penchent. Dans un genre populaire, les romances d'un passé encore plus lointain s'emparent de l'imagination populaire presque sans partage. Des dizaines de millions de Chinois passent leur temps de loisir entre les romans de kung-fu et les feuilletons de télévision racontant des histoires dans les cours impériales. Plus sophistiquées et complètement irréalistes, certes, mais ces productions renvoient les lecteurs, les spectateurs dans un monde en trompe-l'œil où ils peuvent reconnaître une image de la Chine éternelle, ancienne, simplifiée, mais pure et rassurante. Que reste-t-il de la tradition chinoise ? Pendant un demi-siècle, se demandait-on souvent avec l'angoisse quand on voyait tous ces coups destructifs et violents pour faire la table rase de notre héritage culturel, jugé incompatible avec l'idéal révolutionnaire. Et voilà, ce passé culturel ressurgit dans l'imaginaire populaire, idéalisé et enchanté. Sans doute, et encore loin une réconciliation entre l'authentique tradition chinoise et une modernité à l'européenne. Mais la ténacité de la culture chinoise a fait déjà sa preuve. Car d'ici que du temps présent, la nostalgie a ses manifestations diverses et variables selon les goûts, les milieux et les régions à travers la Chine. En fait, la diversité de création culturelle a fait de toute généralisation sur la culture chinoise une affaire risquée. Ce serait plus prudent et justifiable d'en parler au pluriel. Un certain degré de liberté d'expression, limitée mais bien réelle, a permis aux écrivains, aux artistes de s'orienter vers les directions de leur choix. Cela crée ainsi une multitude de tendances ou de cultures si on prend le terme culture en sens large. Aujourd'hui, effectivement, nous pouvons percevoir les contours de plusieurs cultures en développement parallèle. La nouvelle situation sociopolitique à la fin de la révolution culturelle a rendu impossible une mainmise absolue de l'appareil de l'État sur la vie culturelle et intellectuelle du pays. Progressivement est née, à côté de la culture officielle, une culture qu'on peut, toute proportion gardée, qualifier d'indépendante. Cantonnée souvent dans les circuits semi-confidentiels des milieux académiques, artistiques, cette culture indépendante a pu mener une existence indépendante, marginale, sans confrontation avec la culture officielle. Bien sûr, à court de subventions d'État, des prix officiels, des commandes directes, le département de la propagande du parti est toujours capable d'orchestrer des manifestations culturelles dans la droite ligne de l'idéologie orthodoxe. Mais ces manifestations, bien que de l'envergure parfois gigantesque, n'occupent plus tout le terrain. Les jeunes peintres et les sculpteurs, par exemple, arrivent à trouver des salles pour l'exposition de leurs œuvres. Ainsi, juxtaposent maintenant deux types d'art. Un art de l'expression personnalisée, fraîche, ésotérique et libre de tout dogme du réalisme socialiste, et à côté un art stéréotypé, accessible et au service du message officiel. En passant de l'un à l'autre, il est parfois difficile de croire que ce sont des productions d'une même époque et dans un même pays. Dans un autre domaine, celui des recherches historiques par exemple, un bon nombre d'historiens de l'esprit indépendant continuent leur travail de fourmi et destituent l'un après l'autre les mythes de l'histoire soigneusement mis en place dans l'idéologie officielle. Tandis que la version officielle de l'histoire chinoise, surtout celle de l'époque moderne, maintient toujours sa place dans les publications à grand tirage, et plus crucialement dans l'enseignement. En histoire comme en art, la culture officielle et la culture indépendante, bien que potentiellement conflictuelles, semblent éviter à se confronter, préférant d'exister chacune dans sa propre domaine. D'une manière plus fréquente, il existe en Chine d'aujourd'hui aussi une divergence de plus en plus évidente entre une culture d'élite et une culture populaire. Bien sûr, pour les activités culturelles de tous les pays, on peut établir ce genre de distinction. Mais ce qui est spécifique pour la Chine, ce sont les conditions sociales qui permettent de créer une telle dualité dans la vie culturelle. En effet, le développement économique de la Chine de ces 20 dernières années a engendré une Chine à deux vitesses, ce qui entraîne une distanciation des besoins et des environnements pour les activités culturelles. Autour des grandes métropoles, et souvent bénéficiant de l'appui des médias, une culture se développe avec comme ressource la grande tradition des lettrés chinois et aussi une tradition plus récente représentée par des intellectuels formés à l'Occident. Cette culture des élites investit fortement dans des formes comme la calligraphie, la musique occidentale, l'opéra et la littérature classique. Et ces pratiquants sont très enclins à des échanges et des dialogues avec le monde extérieur, surtout occidental. À l'opposé, ces dernières années, dans l'immense campagne chinoise, se réveille une aspiration pour des expressions culturelles plus conformes au goût de la tradition indigène, particulièrement vivantes lors des occasions comme les mariages, les funérailles, les fêtes traditionnelles, les hommages aux ancêtres ou aux divinités de tout genre. Les pratiques de danse, de chant, de théâtre folklorique s'organisent au niveau du village. D'un côté, renouant avec des traditions interdites depuis fort longtemps, parce que condamnées comme féodales ou superstitieuses, de l'autre côté, s'inspirant des produits de divertissement de la culture marchande de notre temps moderne. Dans la plupart des cas, un mur d'incompréhension sépare la culture d'élite et la culture populaire. Une autre polarisation dans la vie culturelle chinoise se trouve entre une culture du Nord et une culture du Sud, respectivement représentées par ce qu'on appelle culture de Pékin et culture de Shanghai. Jingpai, c'est la culture de Pékin, Haipai, c'est la culture de Shanghai. En fait, bien des régions de la Chine cherchent aujourd'hui à valoriser leur identité régionale en encourageant d'une part les recherches sur les racines d'une civilisation propre à leur région, et d'autre part un régionalisme plus prononcé dans les créations artistiques et littéraires. Pékin et Shanghai incarnent la régionalisation culturelle en Chine par leur position dominante, mais aussi par une longue histoire de leur rivalité bien connue qui remonte au début du XXe siècle dans une querelle entre les lettrés de ces deux villes. Ce qui sépare ces deux cultures est une multitude de traits aussi bien esthétiques que sociopolitiques. Les artistes et les écrivains de Pékin tendent à être plus soucieux de la rigueur disciplinaire, plus attentifs à une continuité de tradition, plus étroitement associés au milieu politique, tandis que leurs homologues à Shanghai sont plus prêts à accepter des nouveautés, plus libres dans leur création, plus exposés à l'influence occidentale et plus impliqués dans la commercialisation de leurs produits. À la suite des transformations profondes que connaissent ces deux villes depuis la dernière décennie, ce qui caractérise leur visage culturel changera certainement. Mais tout laisse à penser qu'une divergence importante persistera entre ces deux pôles de culture en Chine. Au-dessus de toutes ces différenciations en train de s'élaborer à la faveur de la nouvelle donne sociopolitique, une antinomie culturelle reste primordiale, traversant tous les aspects et tous les niveaux de la vie culturelle en Chine, et ce, depuis bientôt 2 siècles. En face de la culture occidentale triomphante, dont l'apport à la vie culturelle et intellectuelle en Chine n'est jamais aussi massif qu'actuellement, la culture chinoise traditionnelle cherche toujours à trouver une meilleure façon de s'affirmer. Pourtant, le souci de préserver le patrimoine culturel ne se traduit jamais ou rarement en une situation de conflit culturel, encore moins en des prises de position intégristes. À ce qui se présente sur la scène culturelle en Chine actuelle, on constate plutôt une coexistence parfois amalgamée, qui, quoi qu'il arrive, restera une constante pour l'avenir prévisible de la Chine. Qu'est-ce qui sortira de la rencontre quotidienne et tous azimuts de ces deux cultures si différentes? C'est la grande question dont la réponse déterminera l'avenir de la culture chinoise au XXIe siècle. Depuis la mise en œuvre de la politique de la réforme et de l'ouverture, le phénomène le plus intéressant dans la vie culturelle et intellectuelle en Chine, c'est une diversité des activités culturelles qui aboutirait peut-être à créer de différentes identités culturelles. La raison pour laquelle ce changement est rendu possible réside dans le fait qu'après l'échec de la révolution culturelle, le pouvoir public n'arrive pas à exercer un contrôle permanent et centralisé sur la culture et la chose culturelle a pu donc évoluer dans un espace plus libre, plus large, ce qui laisse une possibilité de développement pluriel. Or, une pluralité culturelle, même dans une étape initiale, pourrait paraître à l'heure actuelle alarmante. Car entre une idéologie en recul et un marché envahissant, la culture reste le dernier ressort pour construire une vie proprement chinoise. Allons-nous alors assister à un éclatement de l'identité chinoise à la suite d'une fragmentation culturelle largement favorisée par les tiraillements économiques et sociaux dans tous les sens? Ou bien peut-on toujours espérer une issue plus constructive? Depuis le moment où la Chine a appris à définir son identité culturelle par rapport à la culture occidentale, sa vie culturelle se déroulait toujours sous l'ombre d'un projet global. À des époques différentes, il y avait toujours des maîtres à penser qui esquissaient des programmes culturels selon une certaine vision politique. Ce qui fait que les créations culturelles de ces époques-là avaient souvent un air d'être planifiées d'avance pour servir une construction sociale globale. De nos jours, délivrée de ses projets et de ses desseins grandioses, la culture a par contre repris sa spontanéité, ce qui est signe d'une meilleure santé pour la vie culturelle. Une plus grande marge pour les créations qui en résultent appelait une approche différente au problème de l'identité culturelle. La diversification de la culture en Chine a lieu jusqu'au moment où on est le plus soucieux du rôle constructif de la culture. C'est peut-être ici une indication que les Chinois sont revenus à leur ancien concept de la culture. À l'opposé d'un concept occidental de culture basé sur une cohérence de soi et une défense envers l'autrui par des distinctions tatillonnes, le concept de culture dans la tradition chinoise, comme j'ai déjà signalé tout à l'heure, ne comporte pas de spécificité substantielle exclusive, indiquant un état d'instruction, un niveau de civilité, une certaine manière de se comporter vis-à-vis des autres. Le concept chinois de culture pourrait bien s'accommoder à de différentes créations dans la vie humaine. Mais une telle généralité de concept ne signifie pas nécessairement une appropriation des éléments étrangers dans un système homogène. En fait, le vieux rêve de synthèse intégrant la culture chinoise traditionnelle et la culture occidentale qu'on entend souvent professer n'est au fond qu'une manifestation du désir de l'uniformisation de la vie culturelle, qui est en fait contraire à l'idée de culture en chinois. Ce qui est plus probable à réaliser, et peut-être aussi plus intéressant pour l'avenir, c'est une Chine aux multiples faces culturelles. Comme au temps ancien, où les Chinois arrivaient à attribuer à chacun de ces 3 courants de pensée une place dans la vie sociale et personnelle, les différentes pratiques culturelles aujourd'hui, même contradictoires dans leurs croyances sous-jacentes, trouveront peut-être leur propre place dans une vie commune et s'épanouir sans nécessairement compromettre l'existence des autres. Cette perspective du développement pluriel de la vie culturelle en Chine, qui est certainement pas au goût des puristes, constituerait peut-être une réponse bien appropriée à la mondialisation qui est le défi principal de notre époque. Il est donc une raison pour laquelle la vie culturelle en Chine mérite notre attention dans les jours à venir. Voilà, merci.
Oui, moi j'ai une question concernant Hong Kong. Est-ce que Hong Kong a une culture particulière et comment elle peut se situer et évoluer par rapport aux cultures dont on vient de parler? Merci.
Hong Kong, je crois, pendant plusieurs décennies, Hong Kong a servi comme une fenêtre, une porte vers le monde extérieur, surtout le monde occidental. Ce rôle a été considérablement réduit après la politique d'ouverture, parce que maintenant, je crois, les échanges se font très souvent directement entre le continent et le monde occidental. Ceci dit, l'influence de la culture, de la vie culturelle à Hong Kong sur le continent est considérable. Ne serait-ce que pour les films, les romans, toutes ces choses qui sont lues et vues avec un enthousiasme excessif parfois par la jeunesse.
Oui, bonjour. C'était en fait pour vous poser une question sur ce qu'on appelle la contre-culture, la culture underground. Et je pense notamment au roman de Mien Mien qui a eu un certain succès en Occident et qui a été censuré en Chine. Merci.
Oui, ce roman a été censuré en Chine, mais vous savez que maintenant la censure est tout à fait relativisée par les moyens de transmission modernes. Il suffit de connecter sur l'Internet pour lire dans son intégralité les textes de Mien Mien. Vous savez que avant le département de la propagande du parti faisait critiquer publiquement les produits culturels jugés comme indécents ou réactionnaires, mais il le fait plus rarement maintenant parce que dans un monde commercialisé, dans un marché culturel, les critiques, la censure sert comme la meilleure publicité pour un roman. Maintenant, les autorités préfèrent de rester un peu en retrait et ils adoptent parfois les moyens plus silencieux, moins voyants. C'est-à-dire, je reviens à votre question, si en Chine, si on est vraiment intéressé par les romans comme monsieur écrit par Mien Mien, ce n'est pas très difficile de trouver ces textes.
Oui. Je vous remercie de votre excellent exposé dans lequel vous avez divisé en deux la Chine, c'est-à-dire la culture de Pékin et la culture de Shanghai. J'ai pensé à la troisième culture, peut-être je me trompe, c'est-à-dire la culture d'outre-Manche.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais
puisque le Taïwan est particulièrement intéressant pour moi du point de vue de l'usage de l'écriture. Vous avez parlé de l'importance de la forme. Alors, pendant le règne de Mao Tse-tung, il me semble que la Chine a mis en pratique une simplification de l'écriture.
Des caractères
chinois. Assez poussé. Oui. Tandis qu'à Taïwan et à Hong Kong, on a gardé les caractères assez complexes et traditionnels. Alors, je crois que cette réforme vise à l'accélération de l'éducation dans le grand peuple, dans le grand public. Donc, avec cette simplification de forme, de écriture, est-ce qu'il y a beaucoup de progrès dans l'alphabétisation, c'est un mot qui n'est pas exact peut-être, mais pour
l'apprentissage d'écriture,
accès de maîtrise de l'écriture par le grand public. Dans ce cas-là, le Taïwan doit être handicapé par l'usage de l'écriture traditionnelle. Est-ce qu'il y a une sensible différence entre la culture, c'est-à-dire la maîtrise de l'écriture en Chine continentale et à Taïwan? Merci.
Voilà, je réponds par deux parties. Premièrement, dans mon exposé, je parle de la culture de Pékin, de la culture de Shanghai, mais je ne voulais pas dire c'était les deux seules formes de culture régionale. Il existe une régionalisation de la vie culturelle en Chine. Ce qui se fait à Pékin et à Shanghai est plutôt représentatif. Donc, on peut trouver aussi une culture en gestation plus vers l'intérieur du continent. Et bien sûr, la culture de Taïwan a aussi une influence considérable sur le continent. En ce qui concerne l'écriture, le gouvernement chinois a adopté à deux reprises, en fait trois reprises, mais la troisième tentative a été un échec. Mais les deux reprises pour simplifier le système d'écriture. Et ces caractères simplifiés sont en usage massif, général, sur tout le continent. Et depuis que les échanges culturels et personnels entre le continent et Taïwan se font de plus en plus intensivement, d'une manière plus intensive, le problème de reconnaissance des caractères réciproquement est un vrai problème. Ce qui est réalisé dans sous la forme d'un retour vers les caractères compliquées, traditionnelles, anciennes. C'est pour ça que depuis, je crois, 20 ans, sur le continent, dans les publications, on peut trouver de plus en plus de caractères anciennes. Maintenant, donc, la politique du système éducatif en Chine est de cette nature, c'est-à-dire on n'enseigne toujours pas les caractères anciens, mais on demande aux élèves d'apprendre à reconnaître ces caractères anciens. C'est-à-dire on demande aux élèves de pouvoir lire les publications, les livres en caractères classiques, anciens, mais on ne leur demande pas d'avoir la capacité d'écrire. Je crois le débat sur la simplification des caractères est un débat assez compliqué. Il est difficile d'adopter une attitude bien tranchée contre ou pour, parce que les caractères simplifiés nous apportent vraiment un avantage d'apprentissage. Pour les petits écoliers chinois, ils dépensent beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps pour apprendre les caractères simplifiés. Donc c'est d'un côté, il y a un avantage réel. De l'autre côté, bien sûr, cela a créé un fossé entre une culture ancienne exprimée, écrite et transmise par les caractères anciens, classiques, et la nouvelle génération qui a reçu une éducation dans les caractères simplifiés. C'est un réel problème, mais en général, je crois, les jeunes aujourd'hui se trouvent dans cette situation-là, c'est-à-dire plus ou moins, ils peuvent reconnaître, ils peuvent lire plus ou moins bien les textes écrits en caractères compliqués, mais ils ne peuvent plus écrire eux-mêmes ces caractères compliqués ou traditionnels.
Une question par rapport à la production intellectuelle et culturelle de la femme en Chine. Il est normal de dire que jusqu'à 1905-1911, à travers ce long confucianisme de 2000 ans, la place de la femme aurait été caractérisée, du moins par Simone de Beauvoir, comme la deuxième. Or, 1949 a quand même été une charnière, du moins théorique. Est-ce que la suite a été positive? À votre point de vue, est-ce que la production donc intellectuelle et culturelle de la femme s'est nettement affirmée ou pas?
Après 1949, il faut reconnaître que le statut des femmes dans la société chinoise a considérablement amélioré. Dans le domaine culturel, les créations, les productions des écrivains, des peintres femmes sont très très marquants. Et je crois que c'est surtout dans le domaine de la littérature. Dans la littérature, il y a toute une génération des jeunes écrivains femmes qui constituent un courant à part et qui frappent par leur sensibilité très fine sur les conséquences de la transformation sociale. Je crois que l'apport des femmes dans le domaine culturel varie d'un genre à l'autre. Dans la littérature, je crois, c'est un courant, ça veut dire leur apport est capital, vraiment capital.
Une question qui est liée à cette notion de culture dont vous avez tant parlé. C'est vrai que ça ne vient pas de la Chine en tant que tel, le mot culture. Mais le mot culture, à ce que je sache, du latin, ça veut dire cultura, qui veut dire cultiver la terre. Mmh. Et cultiver la terre, ça veut dire en fait une sorte d'évolution et quelqu'un qui grandit. Alors, je crois que c'est aussi lié aux questions de mœurs. Et donc, je me dis, alors ma question est celle-ci. Comment concevoir dans ce cas-là le développement ou si vous voulez l'évolution de tout l'homme chinois dès lors qu'on remarque deux types de cultures dans le pays, une culture soi-disant officielle et une culture soi-disant donc indépendante et intellectuelle alors que peut-être que les hommes politiques prennent pour une culture officieuse quoi, voilà.
Oui, pour ces deux concepts, le concept culture en chinois et le concept culture en langue européenne, je crois que c'est un sujet vraiment passionnant. Parce que le concept culture en chinois, wenhua, c'est par opposition à militaire. Donc en chinois, maintenant, je crois, dans les publications, on peut voir, en chinois, on peut dire une culture militaire. Mais en chinois classique, c'est une contradiction en termes. Wen, ça veut dire suivi, pacifique. Donc maintenant, comme j'avais dit dans mon exposé, on utilise wenhua pour traduire le concept culture venu des langues européennes, c'est pour ça qu'il y a un changement de contenu conceptuel. Maintenant, on prend en général le mot culture en chinois, wenhua, plus ou moins dans le sens, en général, hein, plus ou moins dans le sens de culture en langue européenne, ce qui a entraîné des changements considérables. Et pour la deuxième partie de votre question, la culture officielle, la culture indépendante, je crois jusqu'à maintenant, la culture indépendante est plus ou moins tolérée, dans la mesure où cette culture indépendante ne lance pas de défi direct à la culture officielle. Je crois le marché aujourd'hui qui est un facteur de plus en plus important dans la vie culturelle en Chine joue un rôle très important pour l'existence de cette culture indépendante parce qu'il est maintenant possible pour les jeunes créateurs de trouver des moyens, des financements auprès des entrepreneurs privés, auprès des sociétés. Donc, parfois, l'État tolère, l'État préfère de ne pas intervenir. Est-ce que cette culture indépendante pourrait être récupérée pour devenir une culture officieuse? Cela dépend des créateurs, parce que ces créateurs dans cette culture indépendante ne constituent pas un groupe homogène.
ils n'ont pas une politique unique à suivre. Cela dépend d'un exemple, Zhang Yimou. Zhang Yimou, il avait commencé comme un créateur, comme un metteur en scène d'un esprit assez indépendant, mais cela n'empêche qu'il tourne toujours quand il y a des grandes occasions. Il peut recevoir les commissions de l'État pour tourner des courts-métrages pour l'État, pour des occasions comme les Jeux olympiques ou pour les occasions comme l'Expo universelle de pour Shanghai. Donc ça, c'est il faut, vous voyez, juger cas par cas, individu par individu.
Pour vous poser une question sur l'incidence de la révolution industrielle au XIXe siècle sur la Chine et sur la culture chinoise. Une explication qui m'avait été donnée à Fudan par des collègues était la suivante, c'est que la Chine était probablement passée à côté de la révolution industrielle parce que les Chinois dans leur ensemble pensaient que leur art de vivre et leur culture étaient bien supérieurs à une culture qui serait engendrée par la technique. Le deuxième point de ma question est le suivant. Pouvez-vous nous dire, nous donner quelques informations sur les composantes scientifiques, enfin de la science, pardon, et de la technologie dans la culture générale chinoise? Merci.
Pour la première question, l'industrialisation et son absence en Chine avant l'époque moderne, bien sûr, je crois la culture traditionnelle chinoise qui méprisait un petit peu un côté matériel, un côté machine, joue un rôle pour ce manque de développement. Mais je crois que ça, c'est plus général, parce que l'industrialisation, la révolution industrielle s'est passée uniquement en Europe. En dehors de l'Europe, le reste du monde, pas simplement la culture chinoise, la Chine et tous les autres pays du monde en dehors de l'Europe n'ont pas connu cette révolution industrielle. Donc, dans ce cas-là, je crois, pour expliquer ce phénomène, d'après moi, il ne faut pas chercher des... Non, ce serait mieux de ne pas chercher des raisons côté chinois, mais plutôt chercher des raisons côté européenne. Parce que l'industrialisation en Europe, du point de vue global ou mondial, c'est plutôt une exception. L'Europe, la culture européenne, a ses propres raisons pour cette industrialisation. Mais le reste du monde, pas simplement nous les Chinois, mais les Indiens, les autres pays, n'ont pas connu cette révolution non plus. Donc, la raison plutôt se situe plutôt du côté européen. Deuxième partie de votre question, le composant scientifique et technique ou technologique dans la culture chinoise, il est vrai, n'est pas très important parce que surtout dans le courant confucianiste, ce qui concerne le monde physique, le monde matériel, ne représente pas un très grand intérêt pour le confucianisme. Il y a une certaine négligence vis-à-vis des activités matérielles ou scientifiques. Cela explique que un certain retard dans le développement de technologies en Chine, bien que on avait inventé beaucoup de choses d'une manière assez précoce. Mais ceci dit, il n'y a pas de contradiction ou il n'y a pas de incompatibilité entre le confucianisme et les sciences ou la technologie, parce que aujourd'hui, dans le monde actuel, en Chine, il y a beaucoup de scientifiques, de techniciens qui sont de niveau assez élevé, mais qui restent en même temps fidèles à la tradition confucienne. Cela prouve que la croyance confucienne n'exclut pas nécessairement un intérêt ou une dévotion pour une connaissance scientifique du monde.
Je voudrais poser une double question. La première sur le passé des relations entre la culture chinoise et la culture occidentale. Au moment du voyage de Marco Polo, comme par exemple le thé qui est devenu une spécialité anglaise, les raviolis, les pâtes, la tomate qui sont devenues une spécialité italienne. Après ce voyage, est-ce que sont étudiées les relations culturelles, comme par exemple la naissance de l'opéra en Italie, Claudio Monteverdi, après ce voyage, ou une tradition en Chine existait déjà, une tradition d'opéra, ou un art de cour, comme par exemple à la cour de Louis XIV, la tradition de la poudre blanche, qui peut avoir peut-être des relations avec un art de cour chinois que la culture occidentale aurait emprunté à la culture chinoise. Est-ce que ces relations sont étudiées actuellement ? Et d'autre part, la deuxième question est dans le cadre d'une culture plurielle de l'avenir. Est-ce que le patrimoine chinois de la culture savante traditionnelle comme musicale de l'opéra de Pékin ou l'opéra cantonais ou d'autres œuvres d'art diverses, est-ce que cette tradition est préservée et entretenue ?
Premièrement, les échanges culturels entre l'Europe et la Chine sous la dynastie de Ming, plus anciennement, je crois que c'est un domaine de recherche très actif. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de découvertes. Maintenant, je crois chaque année, il y a beaucoup de colloques, beaucoup de conférences consacrées à ce sujet. Et dans ce domaine-là aussi, précisément, il y a toujours un mélange de mythes et de réalités. Par exemple, réellement, qu'est-ce que Marco Polo a apporté de la Chine ? C'est un sujet de débat. Hein. La pâte aux raviolis, selon certains documents, c'est pas Marco Polo qui a apporté. Les Italiens le connaissaient avant le voyage de Marco Polo, et même la réalité de ce voyage est très souvent mise en cause. Ce qui est pour moi plus significatif, c'est que avant la dynastie de Qing, c'est la dernière dynastie que la Chine a connue, les échanges entre la Chine et l'Europe se faisaient toujours dans une atmosphère pacifique et bienveillante. Les conflits qu'on a connus dans le temps moderne étaient plutôt caractéristique de cette dernière dynastie. Donc cette dernière dynastie, malgré tous les autres apports qui apportaient à la Chine, était particulièrement néfaste dans le domaine des échanges culturels entre l'Europe et la Chine. La deuxième partie de votre question, est-ce que cette tradition chinoise, l'opéra, tout ça reste entretenu. C'est difficile de dire parce que ça dépend de générations. Parmi les jeunes, leur intérêt pour l'opéra traditionnel de Pékin, de Guangdong, vous voyez, chaque région a son propre opéra. L'intérêt des jeunes vis-à-vis de ces genres artistiques reste assez réduit. Mais parmi les gens un peu âgés, leur intérêt, leur dévotion à ces formes de culture reste très fort. Donc, tout dépend de l'avenir. Est-ce que ces jeunes, quand ils ont pris l'âge, vont devenir plus intéressés par leur propre héritage culturel ou ils restent en dehors de ce héritage, c'est difficile à dire. Mais en Chine, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que c'est selon l'âge, selon le milieu. Il y a des gens qui continuent à s'intéresser et même à pratiquer l'opéra de Pékin. Ben, il suffit de descendre dans la rue, dans les espaces verts, le petit matin à Pékin et à Shanghai pour voir tous ces gens qui sont là pour pratiquer les chants de l'opéra. Donc c'est leur principal divertissement. Et du côté de préservation. Je crois récemment, on a réalisé un grand projet de préservation de l'opéra de Pékin. On a édité les enregistrements, les vidéos de presque de tous les tout le répertoire qu'on connaît de l'opéra de Pékin. L'opéra a un très riche répertoire. Donc maintenant, ces pièces de l'opéra de Pékin, beaucoup d'entre eux sont très peu connus, hein, jamais présentés sur la scène depuis très longtemps, sont maintenant en DVD, en VCD, donc c'est accessible au grand public. Donc d'un côté, matériellement, cet héritage est bien conservé, donc qui attend, hein, qui attend les nouveaux adeptes. Donc parfois on peut être pessimiste parce que les jeunes ne s'y intéressent plus, mais parfois on peut être moins pessimiste parce que il y a toujours, hein, des gens qui continuent à pratiquer ces chants, ces musiques.
Chu Chou-chan, merci beaucoup.